Salut, ici Ziad Malouf. Un petit mot pour vous dire que ce que vous allez entendre maintenant est une version longue de notre émission du samedi 8 juillet, une version réservée au podcast et au web. Merci de votre fidélité. Le 2 juin 2016, Bruno Van Wassenhove était parti couvrir pour France 3 une des nombreuses manifestations organisées contre la loi travail à Rennes. Après un défilé dans le calme, un petit groupe de manifestants décide de poursuivre la marche en direction de la Rocade, ce périphérique routier qui entoure la cité bretonne. C'est là que la situation dérape, comme Bruno le raconte dans un texte publié quelques jours plus tard sur le site du Club de la Presse de Rennes et de Bretagne.
Je te lis le texte. Hein, c'est ça, c'est violence policière, la réalité des faits, je te lis tout ou...
Ouais.
Donc là, il y a un surtitre. Ces violences policières nous empêchent de travailler correctement. Depuis jeudi soir, c'est un peu l'emballement sur Internet avec du qui frappe qui et du qui harcèle qui. La réalité des faits est celle-ci. Linda de M6, Vincent, les collaborateurs de Libération, mais également Emmanuel, qui est photographe indépendant, moi-même, qui suis France 3 Bretagne. Nous avons accompagné le mouvement des manifestants vers la Rocade sur le début de la route de Saint-Brieuc. On a beaucoup couru depuis Villejean, et les manifestants joyeux chantaient déjà, entre guillemets, la Rocade est à nous. Quand on surgit derrière nous, les véhicules du peloton de la section d'intervention. Les policiers surgissent alors comme des diables en boîte, des camionnettes, et à cet endroit... Ils ne trouvent que nous à proximité. Le gros des manifestants est bien 20 mètres en arrière et recule encore. Emmanuel est immédiatement matraqué une première fois par un policier qui se dirige ensuite vers moi pour repousser violemment l'objectif de ma caméra, juste au moment où dans mon champ, un autre policier s'apprête à tabasser une deuxième fois Emmanuel. Si après, un lien vers la vidéo.
Vincent.
Je reviens donc vers les échauffourées, à 20 ou 25 mètres de moi, et j'aperçois alors Vincent au sol, couché sur le dos, qui ne bouge plus. C'est Emmanuel qui filme la scène.
Qu'est-ce qui t'est arrivé ?
Vincent Ferret est photographe de presse. Ce jour-là, il porte, comme Emmanuel Brossier, le premier photojournaliste matraqué, un casque de protection. Contrairement à Emmanuel, qui n'a écrit presse que sur la partie arrière de son casque, Vincent a soigneusement découpé des lettres blanches qu'il a collées à l'arrière et à l'avant de son casque pour indiquer sa fonction avec le mot presse. C'est exactement là, sur le mot presse, qu'il a été matraqué par un policier.
Vincent est sonné, inerte. Il ne répond pas quand je lui parle et sincèrement à ce moment-là, je suis très inquiet pour lui. Il revient enfin à lui alors que Linda de M6 et Emmanuel nous rejoignent. Vincent explique qu'il s'est fait matraquer très violemment par un policier directement au visage. Il est sonné mais se relève et il est très énervé à tout le moins. Là passent les policiers, Vincent vitupère, Linda également victime de brutalité policière sur les manifestations précédentes, crie... entre guillemets, il y en a marre du traitement de la presse, ici, à Rennes. C'est le début de la séquence vidéo que tout le monde a vue sur Internet.
Il y en a marre du traitement de la presse, ici, à Rennes. Il y en a marre.
Je sais qui m'a mis en coup de matraque. C'est pas moi.
Comme l'écrit Bruno, cette dernière vidéo est celle qui a le plus circulé sur les réseaux sociaux. On y voit des journalistes apostrophant des policiers qui, pour rejoindre leur camion, les bousculent, usent de leur matraque et frappent l'objectif de Bruno. Sans images, ces événements du 2 juin 2016 seraient passés inaperçus et leur récit aurait inspiré une inquiétude modérée. Il faut dire que sur le papier, ils sont d'une gravité relative. Personne n'a été blessé lourdement et les policiers étaient certainement débordés par l'arrivée des manifestants sur la Rocade de Rennes. La force des vidéos est de montrer la violence réelle de ces scènes, l'exaspération, le stress, la panique, la peur, l'énervement des professionnels de l'information qui ne font que couvrir des événements. Les journalistes bousculés et frappés ce jour-là ne sont pas au milieu de manifestants violents. Ils portent tous du matériel ou des insignes qui permettent de les distinguer.
On en a marre du traitement de la presse ici à Rennes. On en a marre.
Depuis quelques mois, les témoignages, les signaux, les alertes se multiplient, dénonçant une violence de plus en plus grande des forces de l'ordre à l'encontre des journalistes en France. Rien de spectaculaire, mais un état de fait qui s'installe discrètement et, semble-t-il, sans obstacle majeur. Parce que nous savons qu'un phénomène de société naît par petites touches et qu'il est généralement trop tard quand on commence à discerner ses contours, nous avons choisi, dans l'atelier des médias, d'explorer les violences auxquelles sont exposés les journalistes dans la couverture de manifestations publiques en France. Nous avons recueilli, rassemblé des dizaines de témoignages et nous allons, pendant 2 semaines, vous livrer le fruit de cette recherche.
L'atelier des médias. 'Cause he gets up in the morning and he goes to work at 9 and he comes back home at 5:30, gets the same train every time. 'Cause his world is built up.
Première étape de cette enquête, Rennes. Vincent Ferret, le journaliste que l'on voyait à terre dans une vidéo, a accepté de me rencontrer. Il m'accueille chez lui, m'offre un café et me raconte son histoire.
Moi, ça fait pas très longtemps en fait que je travaille pour la presse. Ça va faire depuis 2015, depuis les manifestations Rémi Fraisse, donc c'est assez récent. Donc j'ai commencé à couvrir l'actualité, notamment donc ces manifestations suite au décès de Rémi Fraisse. Donc là, ça a été assez violent, direct, assez tendu, et là, c'est vraiment là où la confusion est née chez les forces de l'ordre, de nous voir sur le terrain, nous, jeunes ou moins jeunes, connus de personne, qui se retrouvent en train de faire des images sur le terrain à 2 mètres de la police, et là, ça a commencé à être un petit peu tendu. Les violences policières sur les journalistes, en tout cas, ont commencé à se faire un peu plus présentes autour des cortèges. Je pense que c'est allé crescendo aussi avec la violence des manifestations. Les manifestations ont été de plus en plus virulentes, avec des confrontations directes entre forces de l'ordre et manifestants. Donc surtout ici sur Rennes, où on a quand même un vivier de l'extrême gauche radicale qui est assez présent. Enfin, historiquement, la ville porte un petit peu ça. Tout le monde était un petit peu tendu et on s'est retrouvé dans des situations plutôt désagréables où ça va de l'insulte, des petits poussons, on nous empêche de travailler, on nous empêche de filmer par exemple ou de photographier les arrestations, des choses comme ça. C'est une petite violence, une pression psychologique qui s'installait et qui est devenue quotidienne.
Je pensais parler avec Vincent des événements du 2 juin, mais je réalise sur place qu'il y a une histoire qu'il faut raconter avant cela. Une histoire qui permet de comprendre l'énervement des journalistes. Comme l'explique Vincent, durant l'année 2015, la tension entre journalistes et forces de l'ordre va croissant dans la région rennaise. Et c'est à cette période que le Club de la Presse de Rennes et de Bretagne, organisation qui regroupe des journalistes locaux, décide de réagir par la concertation. Nous allons retrouver Vincent dans quelques instants. Mais un détour s'impose par le siège du club où je rencontre Julie Lalouette-Geoffroy qui est sa coprésidente.
Alors le Club de la Presse de Bretagne a constaté effectivement qu'il y avait des problèmes de violence dans le cadre des manifestations depuis plusieurs années, qui viennent autant des manifestants que des forces de l'ordre. Et du coup, on a voulu engager un dialogue avec les forces de l'ordre, mais aussi avec les militants, qui a commencé en 2015, qui était une réunion informelle avec police, CRS, BAC, etc., pour essayer, quand on est à froid, justement, pas en manifestation, à froid, comment on peut améliorer les conditions de travail de chacun sur le terrain. Le but étant que chacun puisse faire son métier correctement, dans des bonnes conditions. Et donc ces rendez-vous-là ont commencé en 2015 et en 2016, donc au début du mouvement social contre la loi travail, ont pris un peu plus d'ampleur. Il y a eu plusieurs incidents sur les manifestations de violence et intimidation subies par les journalistes. qui viennent des manifestants et des forces de l'ordre, que ce soit de manière verbale, de l'intimidation verbale, mais parfois physique, en poussant quelqu'un, et parfois ça va jusqu'à la violence. Du coup, en 2016, on a fait des premiers rendez-vous, d'abord une réunion entre tous les journalistes de Rennes qui voulaient venir, syndicats, rédactions, etc., qui était une réunion très importante où on s'est rendu compte à quel point le problème était important. Je pense qu'il y a une forme de pudeur de la part des journalistes de pas trop vouloir expliquer ce qu'ils ont vécu en manifestation. Et quand on se retrouve tous ensemble dans un lieu, un terrain un peu neutre, finalement, qui n'est pas un syndicat, qui n'est pas une salle de rédaction avec son rédacteur en chef, là, les paroles se délient et on se rend compte de ce que les gens subissent. Et qu'en fait, ils le vivent pas bien du tout, que quand on est en manifestation, autant les militants nous alpaguent, vous les médias, chiens de garde du grand capital, vous êtes vendus, etc. Avec la critique médiatique qu'on entend régulièrement, habituelle, et qui est pas du tout infondée par ailleurs. Et aussi une défiance de la part des forces de l'ordre, parce qu'on est trop près, poussez-vous, etc. Et en fait, on est ciblé un peu des deux côtés. Donc déjà, il faut regarder devant et derrière soi et sur les côtés, plus faire son travail, ce qui déjà de base est assez compliqué, et il y a cette montée en tension qui avance au fur et à mesure.
Quel souvenir tu as de cette réunion? Quelles sont les paroles qui t'ont marqué? Est-ce que tu peux me détailler un peu? C'est-à-dire, vous étiez combien? Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui t'a marqué?
Je pense qu'on devait être une trentaine de personnes, je pense. Moi, j'ai eu le sentiment, pour résumer, qu'on était un peu en psychothérapie de groupe, concrètement, où justement tout le monde pouvait enfin parler. Et les conséquences, on les voyait, c'était des questions en fait déontologiques, c'est-à-dire... tel groupe de militants ou de forces de l'ordre passe son temps à m'intimider, etc. Du coup, j'ai plus envie d'aller les voir. Mais comment je fais pour avoir un reportage équilibré, aller voir toutes les parties, parce que j'ai peur, parce que je suis pas à l'aise. Et ça pose un vrai problème, tout simplement. Et en fait, les paroles commençaient à se délier là-dessus en se disant, bah, si je vais couvrir tel événement, je sais qu'on va m'insulter. Et du coup, comment est-ce que je fais pour y aller? Parce qu'on est humain.
Donc, on a commencé à travailler un petit peu là-dessus avec le Club de la Presse de Rennes. Donc on a mis en place des réunions avec les représentants du commissariat de Rennes, préfecture, responsable des gendarmes mobiles, pour voilà mettre à plat un petit peu ce qui se passait sur le terrain, et voilà leur expliquer une chose que je pense qu'ils n'arrivaient pas trop à assimiler, c'était que sur le terrain, beaucoup de personnes se retrouvent, notamment les photographes, à bosser et ne pas être titulaires de la carte de presse. Donc la précarisation de notre métier fait que bon, on est de moins en moins à pouvoir obtenir ce sésame qui nous donne quand même une certaine liberté d'action sur le terrain. Et enfin, quand on nous demande notre carte de presse, enfin, je vois bien la différence de traitement entre mes collègues, par exemple, de la TV qui vont pouvoir sortir d'une NAS parce qu'ils montent leur carte de presse. Et moi, on me dit, bah non, t'as pas de carte de presse, tu es manifestant, t'es pas journaliste.
Une NAS, c'est un secteur bloqué par la police. Hein.
Voilà, tout à fait. Ouais. C'est, on va dire, les nouvelles méthodes pour contenir les manifestants. Voilà, c'est vraiment un périmètre sécurisé. Les manifestants sont à l'intérieur, ne peuvent plus en sortir. Ça peut durer jusqu'à... On est resté 4 heures comme ça, en garde à vue, à ciel ouvert, un petit peu. Ouais, c'est 4 heures, c'est bon, on peut vous relâcher, vous pouvez y aller. Donc... le fait de ne pas avoir cette carte de presse commençait à nous créer certains ennuis sur le terrain. On a pris les devants.
Ce qui a été dit pendant ces réunions, c'était le préfet a expliqué son attachement à la liberté de la presse, à la liberté d'expression, que chacun puisse faire son métier, qu'évidemment les journalistes ne devaient pas être ciblés par les forces de l'ordre, mais que parfois on peut avoir du mal à s'y retrouver entre les vrais journalistes et les sous-entendus faux journalistes ou journalistes engagés, journalistes militants ou militants qui se font passer pour des journalistes. Et la question du coup était la fameuse question de la carte de presse, qui sous-entend un vrai journaliste a une carte de presse et quand on n'en a pas, on n'est pas journaliste. Et la question de la pédagogie qui a mené le club de la presse en expliquant que la carte de presse n'est pas la garantie qu'on est journaliste, on peut tout à fait être journaliste sans carte de presse, que la carte de presse est liée aux conditions de revenus, et pas à la qualité du travail, qui n'est pas liée à la signature de la charte de déontologie de la profession, par exemple, qui n'est pas liée à une quantité, un nombre de productions, est liée uniquement aux revenus. Et que c'est pas forcément le critère. Nous, à chaque fois, on répond à cette question de la carte de presse sur la question du comportement. C'est-à-dire qu'il me semble que les forces de l'ordre ont pour mission, quand elles ont un geste violent, ou de repousser quelqu'un, c'est une réaction à un comportement agressif. Et qu'un journaliste, dans son comportement, qui est sous-entendu un comportement professionnel, avec ou sans carte de presse, ce comportement professionnel est justement qui ne va pas entraver les gestes des forces de l'ordre. Parfois, il peut être un peu trop près, mais qui sait très bien où est sa place. À la différence d'un journaliste qui n'a pas un comportement professionnel, donc il serait là un journaliste militant ou un militant journaliste, qui serait avec son téléphone portable en train de filmer la police tout en l'insultant. Là, on comprend bien que c'est un comportement qui n'est pas professionnel. Et par ailleurs, un journaliste qui a une caméra à l'épaule qui fait 10 kilos, on se doute bien qu'il va pas la jeter à la figure d'un CRS. Donc il n'y a pas de comportement agressif. Pour autant, des journalistes avec une caméra à l'épaule ont été gazés, entre guillemets, à bout portant, avec la bombe directement dans les yeux. En quoi c'est une réponse à un comportement agressif? Et nous, on est parti du principe que quand on a un crayon à la main, un téléphone, un appareil photo, on n'a pas un comportement agressif fondamentalement. Donc ça ne justifie pas la réaction violente. Parce que nous, la position au niveau du Club de la Presse n'a jamais été de dire ni de dénoncer le fait que l'on respire des gaz lacrymogènes ou qu'on est bousculé pendant une charge. Le problème, c'est que des journalistes, parce qu'ils sont journalistes, sont ciblés.
Alors, du coup, vous avez vu le préfet. Il y a eu d'autres choses qui ont été faites. Et tu parlais aussi de la sensibilisation vis-à-vis de l'autre côté, donc des manifestants, entre guillemets.
Oui, tout à fait. Alors du coup, on a vu d'un côté le préfet, de l'autre côté, on a rencontré l'intersyndicale. Donc en expliquant exactement la même chose que ce qu'on a expliqué au préfet, qui nous ont répondu la même chose. Évidemment, la liberté de la presse, c'est important, il faut que ce soit respecté. Et moi, j'ai eu l'impression que ça s'est quand même amélioré avec les militants, les relations journalistes-militants, sauf exception quand même notable pour le journal Ouest France, qui a été la cible permanente et récurrente des manifestants. Mais hormis Ouest France et BFM, qui sont un peu les deux incarnations un peu de la critique des médias locales pour Ouest France et nationale avec BFM, j'ai eu l'impression que ça s'était quand même globalement amélioré. Mais peut-être que c'est aussi par effet de comparaison, parce que ça s'est dégradé avec les forces de l'ordre.
Bon, on va regarder un petit peu les images de la manifestation du 2 juin, comme ça on va se mettre un petit peu dans l'ambiance de la manif.
Je suis toujours chez Vincent, qui me montre maintenant ces images du 2 juin 2016. Il me fait défiler les clichés du rassemblement pacifique devant la préfecture, puis les photos des jeunes qui ont décidé d'aller envahir la rocade à quelques centaines de mètres.
On arrive vraiment sur la rocade. Et donc là, bah voilà, ils commencent à courir. Puis on entend les sirènes derrière. Les sirènes de véhicules de police. Donc là, on voit le groupe de manifestants qui est rabattu dans le talus pour être sorti de la rocade. Et donc moi, je continue à courir. Et ça, bah voilà, là, on voit le policier qui me dépasse. Donc c'est fou, je suis en train de courir. Et ben après, il n'y a plus d'image parce que ben, je me retrouve par terre. En fait, ce policier-là m'a dépassé, s'est retourné et m'a donné un coup de matraque directement dans la tête. Voilà. Et donc moi, j'étais en train de courir, je me suis retrouvé au sol. Et puis là, il y a mes collègues qui sont là et qui me disent « Ah, Vincent, en fait, apparemment, j'étais inconscient pendant quelques secondes. Pour moi, j'ai pas perdu conscience, j'ai pas perdu connaissance. » Après ça, moi je me lève et je veux savoir ce qui s'est passé, je veux savoir qui m'a tapé dessus en fait. Moi je veux des explications, je veux savoir pourquoi je me suis fait taper dessus. Alors que moi, enfin voilà, j'ai écrit presse partout, j'ai mon appareil photo dans les mains, ces gens qui me connaissent, pourquoi m'ont-ils tapé dessus quoi. Là on a été 4 photographes quand même à se faire taper dessus directement. On a été les premiers à subir la violence de la police presque. Donc il y a Emmanuel Brossier qui prend les premiers coups. Jérémy Verchère de Vostok Press qui lui s'est fait casser son objectif directement. Il n'y a même pas eu de coup sur lui. On lui a directement cassé son appareil. Jean-Claude Moschetti de Réa et moi. Et là, ouais, j'ai vraiment le sentiment que on n'est plus rien, on représente rien. Et que si on veut nous éclater dans un fossé ou dans un coin, c'est normal. Maintenant, il peut nous arriver n'importe quoi sur le terrain. Être avec un appareil photo ou une caméra fait de nous des cibles, fait de nous des dangers pour certaines personnes. On devient une cible, au même titre que les manifestants pour les policiers, mais au même titre que les policiers pour les manifestants. Donc on devient vraiment un élément presque à abattre sur le terrain, quoi, à ce moment-là.
Après avoir vu Vincent et Julie du Club de la Presse, et juste avant de quitter Rennes, j'ai rendez-vous avec Emmanuel Brossier, premier journaliste frappé par les forces de l'ordre le 2 juin, seul cas où le responsable des coups est identifiable.
Moi, j'étais quasiment en tête de cortège, et le premier camion qui remontait les fils s'est arrêté juste à côté. Et du coup, les policiers qui en sont descendus ont pas cherché à faire de différence sur ce qui se passait. En fait, il y a un premier qui m'a attrapé, qui m'a mis des coups de matraque dans les jambes. Et un deuxième, en fait, qui a pris le relais et qui a fait à peu près la même chose, quoi. Au moment où ils sortent du camion, je leur hurle plusieurs fois presse en mettant mon appareil photo devant moi pour leur montrer que j'allais pas leur jeter, quoi. Et en fait, quand j'ai vu que le premier courait quand même vers moi, je me suis retourné pour protéger. C'est bête à dire, mais pour protéger d'abord mon matériel. Du coup, derrière, c'est écrit presse. Donc, en plus de ça, enfin, s'ils comprenaient pas, j'avais plus rien à faire, quoi, à part attendre que ça se passe. Puis c'était pas une compagnie de CRS ou de gendarmes mobiles qui eux vont de ville en ville et qui du coup connaissent pas forcément les gens sur place. Là, à l'époque, c'était une section d'intervention ou maintenant c'est une compagnie. Enfin bref, du coup, c'est des gens qui travaillent localement qui nous voient, enfin, surtout pendant la loi travail, qui nous voyaient deux fois par semaine, trois fois par semaine et à qui on a déjà eu affaire justement auparavant. Du coup, après l'épisode de la rocade, on était plusieurs à déposer une plainte à l'IGPN de Rennes. On a été reçus en audition une première fois. Du coup, pour expliquer ce qui se passait, on a donné des photos, des traces qu'on avait. Alors du coup, moi, c'était sur la cuisse à l'arrière.
Il y avait un film qui montrait
Il y avait la vidéo en plus de France 3 qui montrait l'acte. Et du coup, en début mars, là, j'ai reçu, mi-mars, j'ai reçu une réponse du coup de cette plainte en classement sans suite. Ils ont auditionné le fonctionnaire de police, le premier, je pense, qui m'a mis des coups de matraque. Ils ont un peu justifié la plainte en disant que c'était une action qui était coordonnée dans l'urgence et donc elle n'était pas préparée et que du coup le coup de matraque que j'avais pris l'unique coup de matraque, parce qu'en fait sur la photo que je leur ai donnée, moi j'ai 2-3 traces, voire peut-être même un peu plus sur la cuisse, mais que l'unique coup de matraque porté à hauteur de mes jambes l'avait été pour mettre un terme à ma progression.
Donc nous, il n'y a pas de témoin. Même en vidéo, par exemple, moi, le coup que je prends, il est sur aucune image. Donc, classé sans suite, moi, l'IGPN avait été très clair avec moi, pas de témoin, pas d'image, classé sans suite. D'accord, très bien. Jean-Claude Moschetti, c'est pareil. Pas de témoin, pas d'image, classé sans suite.
Parce qu'on avait fait pas mal de rendez-vous en amont avec les forces de l'ordre, avec le préfet, avec l'intersyndicale. On a décidé de saisir le défenseur des droits pour essayer de monter d'un cran. Et derrière, tous les syndicats de la presse sont rentrés dans la boucle et ont demandé un rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, Monsieur Cazeneuve, qui a eu lieu le lundi. Sur le défenseur des droits, on a été rappelé en septembre pour mettre en relation avec les personnes, les journalistes concernés le jour de la rocade. Depuis, on n'a pas de nouvelles. Et au niveau du ministre, c'était un rendez-vous qui a duré près d'une heure et demie. On était donc tous les syndicats et clubs de la presse, on devait être 8 ou 10, il me semble, avec le ministre et plusieurs de ses conseillers. Une heure et demie de discussion, franchement, houleux. Et on entendait à nouveau cette critique, vrai, faux, journaliste, carte de presse, une critique aussi des médias sur les journalistes n'écrivent pas toujours des choses très très vraies, ça peut agacer, etc., qui est un discours qui personnellement m'étonne beaucoup. On a aussi entendu, et c'est un argument que je reçois pas du tout, sur d'expliquer les conditions de travail des forces de l'ordre qui sont délicates et que du coup parfois il peut y avoir un tas de tensions et un geste, un écart. Sauf que l'écart, il est pas acceptable, d'autant plus que les journalistes n'ont pas forcément des très bonnes conditions de travail, il y a une précarisation de la profession, etc., etc. Et il y en a pas un journaliste qui lance sa caméra de 10 kilos à la figure d'un CRS, quoi. Donc après, le ministre nous a assuré de son soutien, de sa volonté de respecter la liberté de la presse, etc. Nous a lu une circulaire qui a été envoyée aux forces de l'ordre sur Rennes, mais aussi apparemment partout en France, il me semble, mais en disant bien qu'il fallait respecter les journalistes en train d'exercer leur profession avec une carte de presse.
À la suite de ce déplacement, j'ai contacté le défenseur des droits, cette autorité constitutionnelle indépendante, qui m'a confirmé que la saisine du club de la presse de Rennes était en cours d'instruction. J'ai tenté par ailleurs d'entrer en contact avec la préfecture d'Ille-et-Vilaine ainsi que l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, qui n'ont pas répondu à nos demandes. Je repars de Rennes avec plusieurs hypothèses de travail. Petit 1, les manifestations contre la loi travail en 2016 ont révélé une dégradation des relations entre journalistes et forces de l'ordre, une dégradation qui remonte au moins à 2015. Petit 2, pour des raisons liées à leur support, l'image, les photographes et les caméramans sont les plus susceptibles de recevoir des coups délibérément ou accidentellement lors de manifestations. Petit 3, le statut des journalistes joue un rôle et plus particulièrement la possession ou non de la carte de presse. Reste maintenant à déterminer si ces éléments sont propres au contexte rennais ou s'ils sont présents sur l'ensemble du territoire. Restez avec nous.
Donc là, une première grenade de désencerclement qui va déclencher à Nantes. Et une camarade journaliste qui, je me demande, n'a pas... Ça va ou pas? Tu t'es fait toucher? Ah oui, effectivement. Donc là, ils ont lancé une grenade sur une camarade journaliste qui vient de droite. Qui vient d'être... Ah oui, tu saignes, putain. Tu saignes, alors, mets-toi par terre. Mets-toi par terre. Appuie le SAMU.
I've been pepper sprayed in my face. And they sprayed everyone with no notice to tell them to disperse. And so the police, I was with all other media, and they isolated me and took me out. I don't know about French police and if this is regular. But I was at La République and I saw a 5-year-old get tear gassed by the French police. And I saw an elder woman, 70 years old, get pushed and stepped on by police. I don't know what is going on here, but this cannot happen. This is just as bad as American police, and American police are the worst. Why do we pepper spray media, citizens, non-violent protesters who are singing or chanting? No one did anything.
Il faut préciser tout d'abord que ce travail est né d'une série de signaux que nous avons pu recueillir sur les 2 dernières années. Il s'agit d'abord de publications d'organisations non gouvernementales qui dénoncent les violences policières en France. Tout récemment, Amnesty International a publié un rapport qui rappelle à l'État français que manifester n'est pas une menace mais un droit. Ce rapport liste des dizaines de cas de violences policières, c'est-à-dire d'usage inadéquat de la force par la police en France durant l'année 2016. Un paragraphe est même consacré aux violences à l'encontre de la presse qui raconte les mésaventures de plusieurs professionnels. Parmi les recommandations finales du rapport, on peut lire ceci. Les représentants des forces de l'ordre doivent respecter et protéger le droit à la liberté d'expression dans le cadre des manifestations, ce qui inclut également la possibilité donnée aux journalistes et aux cinéastes de les documenter, y compris dans les cas où les représentants des forces de l'ordre font usage de la force. Un an auparavant, c'était l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui publiait un rapport sur les violences policières en France. Son titre, L'ordre et la force, un rapport dirigé par Aline Dayer. Je suis allé la rencontrer au siège de son organisation. Son étude cite des violences infligées à la presse, mais ce n'est pas son propos principal. Il n'empêche que son auteur a pu observer l'émergence d'un phénomène sur l'année 2016.
On a reçu beaucoup de témoignages ou vu passer beaucoup de témoignages de journalistes ou de photographes ou de reporters pendant les manifestations qui avaient été directement la cible des forces de l'ordre, que ce soit par des coups ou par des vexations, les atteintes aux biens, des appareils photos qui ont été brisés, confisqués, etc. Et on a effectivement eu beaucoup de témoignages en ce sens l'année dernière. Et ce constat a l'air assez récent, en fait. Une des explications comme ça que je pourrais y voir, c'est peut-être la crispation augmentante pendant les manifestations. La crispation voilà, qui monte de part et d'autre. Beaucoup de tensions, notamment de la part des forces de l'ordre, qui se sentent, voilà, qui se sont vues beaucoup être beaucoup filmé, notamment par des citoyens dans les manifestations de l'année 2016, et qui du coup font peut-être un rejet de l'ensemble des personnes qui les observent, qui les filment, qui témoignent, qui rendent compte à un public plus large, et du coup ne faisant pas du tout de distinction entre les journalistes dont c'est le métier et des citoyens. Quand bien même ce n'est pas leur métier d'ailleurs, qui ont le droit de témoigner de ce dont ils sont témoins.
Aline Dallière n'est pas la première personne à observer cette crispation. Son hypothèse me rappelle des propos tenus par Julie Lalouette-Geoffroy du Club de la Presse de Bretagne, quand je lui ai demandé s'il était possible de dater la dégradation des conditions de travail des journalistes dans sa région. Sa réponse concerne les relations des professionnels de la presse avec les manifestants et avec les forces de l'ordre.
Moi, j'ai l'impression que du point de vue côté manifestant, que ça date pas de la loi travail, que c'est antérieur à ça. À titre personnel, j'avais couvert, par exemple, beaucoup Notre-Dame-des-Landes avec Radio France, et il y avait là aussi une défiance qui était très très forte. C'était un terrain très difficile, et je saurais pas du tout dater. Mais il y a un mouvement de fond qui ne date pas d'il y a un an, qui est en marche là-dessus. Au niveau des forces de l'ordre. Moi, je trouve que c'est plus récent, par contre. Mais après, c'est l'expérience personnelle et les discussions que je peux avoir avec mes collègues. J'avoue que j'ai pas énormément d'analyse ni de recul là-dessus. Mais j'ai l'impression que devenant des forces de l'ordre, ça, c'est lié, j'ai l'impression, à Internet, au fait que tout le monde filme, prenne des photos, que ça fasse le buzz très vite. Et que du coup, c'est ce qu'ils disent souvent aussi, c'est qu'ils se sentent harcelés par les journalistes, d'abord qui sont prêts, qui se tiennent en première ligne, plus toutes les autres personnes avec les téléphones, hein, que tout le monde filme maintenant. Du coup, il y a toujours un écran, un objectif braqué sur eux, qui font que, on se sent épié.
J'aurai l'occasion de revenir sur cette question de l'omniprésence d'images, notamment en parlant avec des représentants de CRS. Mais n'anticipons pas. En lisant le rapport de l'ACAT, d'autres éléments me semblent importants pour comprendre les tensions et les violences qui ont émaillé les mouvements sociaux des derniers mois dont les journalistes ont été victimes. Il s'agit d'évolutions dans la manière dont les forces de l'ordre gèrent les manifestations. J'interroge Aline Dallière sur ce sujet.
Il y a très nettement, alors on n'a pas enquêté nous sur les évolutions de la part des manifestants, sur les évolutions sur les groupes de manifestants. En revanche, on a enquêté sur les évolutions concernant la doctrine du maintien de l'ordre, et on constate des changements majeurs ces dernières années concernant le maintien de l'ordre, avec notamment l'utilisation de nouveaux équipements, de nouvelles armes, et là l'année dernière l'utilisation de nouvelles techniques de maintien de l'ordre qui contribuent tout simplement à tendre la situation encore plus. Donc on parle là de l'usage de certaines armes comme les flashballs et les lanceurs de balles de défense, donc ces armes qui projettent à une vitesse très importante des balles en caoutchouc, la taille d'une balle de golf à peu près, et qui ont, là, ces 10 dernières années, occasionné un nombre très important de blessés graves, et un nombre encore plus important et non comptabilisé d'ailleurs de blessés moins graves. Et d'autres armes comme des grenades de désencerclement. C'est une grenade explosive, donc qui explose et qui, en explosant, projette 18 petits galets en caoutchouc, des petits pavés à peu près d'un centimètre sur deux, qui projettent dans toutes les directions ces pavés. Et donc, ça atteint les personnes de manière complètement indiscriminée. Donc, ces armes ne ciblent pas du tout des personnes en particulier. Ça touche n'importe qui passe dans un rayon assez large. Ça, ajouté aux techniques, aux nouvelles techniques de maintien de l'ordre que sont notamment les NAS, qui consistent à encercler toute ou partie d'une manifestation. Donc les forces de l'ordre encerclent une partie où toute la manifestation, c'est plus rare, mais une partie de la manifestation.
Isole en fait.
Isole, exactement. Encercle et isole une partie de la manifestation. Donc les personnes qui sont à l'intérieur sont de fait privées de liberté. Elles n'ont pas le droit de circuler, ni d'entrer, ni de sortir de ce cercle. Ça contribue vraiment à augmenter les tensions de manière très importante, alors qu'on a des exemples dans d'autres pays où justement les doctrines récentes du maintien de l'ordre visent plutôt à ce qu'on appelle désescalader les violences. Alors, c'est utilisé notamment en Allemagne. Selon ces principes de désescalade, on n'utilise pas les armes intermédiaires telles que les flashballs et les grenades de désencerclement, considérant que ces armes sont contre-productives pour la police sur le court terme et sur le long terme, puisqu'elles contribuent à accroître ces tensions entre les forces de l'ordre et la population.
C'est la police, c'est tout.
En plus des rapports d'ONG, plusieurs enquêtes journalistiques font état d'une recrudescence des violences à l'encontre des journalistes en France. La dernière en date est d'avril 2017. Elle est signée Thomas Status pour Street Press. Son titre, Journalisme en état d'urgence. Le papier est accablant pour les forces de l'ordre. Il évoque une dizaine de cas. Tirs de balles en caoutchouc, coups de matraque, fichage. Parmi les témoignages recueillis par Street Press, il y a celui de Thierry Vincent qui raconte ce qui lui est arrivé en mai 2016 alors qu'il filmait pour l'émission Envoyé spécial une manifestation Place d'Italie à Paris. Extrait.
Et je vois une rangée de CRS un peu nerveux. J'entends par ailleurs celui qui a l'air d'être le chef de la compagnie qui dit « Les journalistes qui sont devant, vous les dégagez à coups de bouclier. » Donc, plus curieux. Donc je me suis mis sur le côté, j'ai signalé ma qualité de journaliste qui était visible, hein, j'avais une caméra et j'ai dit journaliste, presse, etc. Et ils ont chargé, la plupart m'ont évité hein, en passant sur les côtés, comme c'est plutôt la règle, j'ai levé les mains. Il y en a un qui tout à fait volontairement m'a donné un énorme tampon là, avec son bouclier. Donc je suis tombé à la renverse, hein, donc crâne ouvert, perdu connaissance pendant une minute, je ne savais plus quel jour on était, ni quel mois, etc. Donc bon, je m'en suis tiré avec 7 points de suture, pas trop grave, mais enfin ça aurait pu être grave parce que tomber par terre comme ça, la renverse, le crâne sur le sol, on peut être gravement blessé, évidemment.
Nous avons donc rencontré Thomas Status pour l'interroger sur la genèse et les enseignements de son enquête.
Pour dire les choses clairement, c'était un peu un sujet dont on avait tous l'intuition depuis pas mal de temps, parce qu'on voyait des brimades à l'égard des journalistes lors des différents mouvements sociaux qui ont eu lieu au printemps dernier, et aussi parce que c'était des choses qu'on nous rapportait, que plusieurs confrères nous rapportaient, que ce soit des amis ou non d'ailleurs. Et c'était quelque chose sur lequel il n'y avait pas forcément de mots, c'est-à-dire que beaucoup de gens racontaient effectivement que leur matériel avait été confisqué, qu'on leur avait demandé à répétition leur carte de presse, que c'était parfois difficile de prendre des photos dans certaines situations. C'est un sujet qui avait déjà été traité déjà à l'époque de Nuit Debout. Il y avait eu plusieurs papiers, notamment un papier de BuzzFeed, si je me souviens bien, et un papier de Télérama sur les violences à l'égard des journalistes indépendants. Il y avait un peu ce présupposé que c'était pas les grands journalistes d'agence, c'était pas les gros mecs de télé qui se faisaient embrouiller pendant des manifs. Et en fait, plus on avance, plus on se rend compte que ça touche tout le monde, puisque il y a plusieurs journalistes télé qui bossent dans des grandes rédactions françaises qui nous ont envoyé des messages. Mais on s'est rendu compte que c'était de beaucoup plus large que ce qu'on pensait. Et ce qui était aussi triste, mais en même temps révélateur, c'est que les journalistes avaient aussi en partie intériorisé cette violence. C'est-à-dire que c'était quelque chose d'accepté. Combien de fois on nous a dit « non, j'ai pas porté plainte ». Et c'est un peu les deux sentiments que j'ai eus quand j'ai bossé là-dessus. C'est à la fois que c'était beaucoup plus étendu que ce qu'on pensait, et que c'était malheureusement très accepté et accepté comme un risque des métiers par les confrères, quoi.
Thomas, qui était interrogé par Constance Léon, signale l'existence de quelques autres publications. Elles se comptent sur les doigts de la main. Celle de BuzzFeed date de mai 2016. Elle est signée David Perrotin. Son titre, Nuit debout, les journalistes indépendants, autres victimes collatérales de la police. Ce papier répertorie une dizaine de cas de violence infligées à des journalistes ou des personnes qui couvraient le mouvement Nuit debout au cœur de la capitale française au printemps 2016. Je suis allé voir David Perrotin au siège de BuzzFeed France. David m'a expliqué tout d'abord que cette enquête était née d'un travail de recensement des violences policières en général pendant le mouvement Nuit debout.
Il y a un moment donné où tous les deux jours, en conférence de rédaction, on évoquait les violences policières. Et on se disait, mais c'est pas possible. Et donc, à force de faire un papier plus un papier plus un papier, on voyait que ce serait pas lisible, en fait, qu'il y a une certaine lassitude qui peut vite arriver de la part du lecteur. Et moi, je cherche toujours un moyen de, quand il y a des problématiques qui s'imposent, d'essayer de bien la cibler, bien l'amener. Donc l'idée qu'on a eue, c'était de faire un tableau pour recenser les violences policières et d'avoir une catégorie pour montrer un petit peu ce que font les gens. Et il y avait notamment une catégorie pour les journalistes.
En réalisant ce tableau, David s'est rendu compte que sur les 50 cas de violence dont il a eu connaissance, 14 concernent des journalistes, photographes ou blogueurs. Une proportion qui ne laisse pas de doute sur le fait que les personnes qui couvraient ce mouvement s'exposaient plus que d'autres à des violences. David a donc creusé cette question, ce qui a donné lieu à son papier sur les journalistes indépendants victimes collatérales du maintien de l'ordre pendant Nuit Debout.
En réalité, je pense que ce qui a émergé aussi de toutes ces manifestations, c'est l'inégalité qui peut exister entre les journalistes qu'on dit indépendants, c'est-à-dire qui ne sont pas rattachés à une rédaction et qui souvent n'ont pas de carte de presse, des autres journalistes. C'est clair que moi, quand je vais en manifestation avec un sac à dos et du matériel de protection, certains CRS ont voulu me le confisquer, mais à chaque fois, ça crée des discussions où je demande à appeler un responsable ou la préfecture pour qu'on me laisse aller et venir avec mon matériel de protection.
Et t'as une carte de presse.
Et grâce à ma carte de presse, c'est-à-dire que si j'avais pas de carte de presse, comme c'est le cas des autres journalistes indépendants, là, on peut se faire confisquer son matériel, on peut se faire refuser un accès sur une manifestation.
Son matériel de protection,
De protection, ouais.
Pas les appareils photos, les choses comme ça.
Pas les appareils photos, mais par exemple, il est arrivé pour certains journalistes indépendants d'être contraints à supprimer ces images. Alors que si vous avez un CRS qui demande à un journaliste, moi ça a été le cas pour moi, on est venu pour me demander de supprimer mes images, clairement avec les cartes de presse ça vous accorde, en tout cas vous pouvez arrêter le temps et vous pouvez dire voilà je veux un responsable, j'appelle la préfecture, etc. Or pour un journaliste indépendant, ils peuvent clairement ignorer les règles de base de la liberté de la presse parce qu'ils se disent que y a pas de carte de presse, donc on peut, certains, hein, je dis pas tout le monde, hein, on peut facilement être attentatoire à certaines libertés sans que ça crée du remous. Donc ça, clairement, de ce mouvement-là, on a vu que certains journalistes indépendants étaient un peu de la chair à canon. C'est-à-dire qu'ils étaient les premiers à couvrir les mouvements de Nuit Debout, par exemple, et ils restaient toute la nuit. C'est-à-dire que vous n'avez pas de journalistes. Les rédactions n'ont pas les moyens d'envoyer des journalistes, ou alors souvent ils envoient des stagiaires, etc., toute une nuit pour couvrir un mouvement. Donc c'était les journalistes indépendants qui restaient, mais c'était les premiers à être frappés ou à être victimes de certaines violences policières. Et sur les réseaux sociaux, les journalistes indépendants ne cessaient de dénoncer ces violences-là, et vous n'aviez pas de réponse ni des autres confrères au sein des rédactions, ni des syndicats. Après, il y a eu une prise de conscience, mais je pense que ils souffrent d'une certaine réputation. En fait, les journalistes indépendants sont toujours stigmatisés comme étant des militants. Or, moi, je me fiche un peu de savoir s'ils sont militants ou pas. Je pars du principe que si ils sont journalistes, puisque on peut être journaliste sans carte de presse, c'est une atteinte à la liberté de la presse. Je veux dire, on va pas reprocher à un journaliste du Figaro de Valeurs Actuelles son militantisme quand il va couvrir une manifestation. Et l'inverse marche aussi pour les journalistes de l'Humanité, de Libération, etc. Donc, j'ai l'impression que cette étiquette de militant explique un peu le silence d'autres rédactions. Et je trouve ça un peu injuste vis-à-vis de ces journalistes qui, en réalité, connaissent beaucoup plus d'obstacles pour leur métier.
Cet entretien avec David achève de nous convaincre qu'il existe bel et bien un problème multiforme lié à la couverture de manifestations en France et aux risques encourus par les professionnels et, disons, les amateurs de l'information. Tous deux partageant le droit d'observer, couvrir, filmer, photographier et analyser les manifestations publiques en France et, plus précisément, les forces de l'ordre sur la voie publique. Après avoir recueilli plusieurs témoignages de photographes expliquant que le fait de ne pas posséder la carte de presse est un frein à leur métier, j'ai contacté la CCIJP, la commission en charge de cette pièce d'identité des journalistes professionnels. Sa présidente m'a répondu qu'elle manquait de temps pour me recevoir et m'a rappelé les conditions légales d'obtention de ce sésame devenu un outil de discrimination entre les journalistes gagnant suffisamment d'argent pour vivre de leur travail et les autres.
L'atelier des médias.
Monsieur, on sait pas si vous êtes journaliste.
Moi, je suis journaliste.
Vous avez votre carte de presse?
Ah, j'en ai pas de carte de presse comme à peu près 50% des journalistes.
Bah ouais, donc votre masque à gaz, monsieur, vous allez me le donner?
Ah non, je vous le donne pas.
Bah si, monsieur, vous avez une question.
Est-ce que vous avez oui, j'ai une question. Est-ce que vous avez je sais pas, un arrêté préfectoral, quelque chose qui interdit le port?
Il y a eu des actes violents, il y a eu des...
Oui, non, mais je veux dire, au niveau de la loi, est-ce que vous avez quelque chose à me dire à ce propos?
Ce que j'ai à vous dire, monsieur, c'est que là, il y a eu des violences commises sur des policiers, d'accord?
Donc on s'en prend aux journalistes?
Monsieur, je vous demande si vous avez une carte de journaliste, vous me dites que non.
Bah oui, mais je vous dis qu'il n'y a pas, bah, y a pas besoin d'une carte de journaliste pour être journaliste en France.
Bah si, monsieur.
Bah non, bah, je vous la prends, c'est pas une profession non, réglementée, non, on n'est pas en Corée du Nord.
Monsieur, commencez pas, donnez-moi votre...
Mais je commence pas, mais non, je vous le donne pas.
Monsieur?
Non, si vous me le confisquez, vous me donnez une raison légale. Enfin, bah, je veux bien respecter la loi, mais il faut que vous la... Mais c'est pas la loi, ça. Mais c'est pas la loi. Bah non.
Bah bougez pas, je vais chercher mon patron.
Dans ma recherche de documents relatant les violences contre les journalistes, un dernier texte attire mon attention. Il date du 23 juin 2016. Son titre ?
Reporter indépendant, nous vivons la précarité et la répression.
Lui, c'est Yann Lévy, l'un des signataires de ce manifeste publié sur le site de Mediapart. Je lui ai demandé d'en lire quelques passages.
Depuis plusieurs semaines maintenant, nous sommes sur le terrain quasiment quotidiennement, de jour comme de nuit, afin de couvrir le mouvement social provoqué par le projet de loi El Khomri. De par notre métier de photographe, nous sommes souvent en première ligne, au cœur des confrontations entre manifestants et les forces de l'ordre. Nous sommes exposés, nous le savons, nous l'acceptons. Mais la dégradation de nos conditions de travail n'est pas du fait des manifestants, mais des forces de l'ordre elles-mêmes. Au fil de l'intensification du mouvement social et des violences l'agitant, notre travail est devenu de plus en plus risqué, difficile, voire impossible parfois. Depuis le début du mouvement, nous assistons à une volonté délibérée de nous empêcher de travailler, de documenter, de témoigner. Nous sommes de nombreux photographes à nous plaindre de cette violence. Il n'y a pas eu de manifestation ou de rassemblement où aucun photographe n'ait été violenté physiquement et ou verbalement par les forces de l'ordre. Ces violences vont du mépris, du tutoiement quasi systématique, aux insultes, mais également à des tentatives de destruction ou de saisie de matériel. L'effacement des cartes mémoire, des coups de matraque, des gazages volontaires et ciblés, des tirs tendus de lacrymogènes, des jets de grenades de désencerclement, etc., etc. En amont des manifestations, il arrive même que les forces de l'ordre confisquent notre matériel de protection, masques, casques, lunettes.
Cet appel où l'on sent de la rage résume et confirme les éléments observés jusque-là par notre équipe. Je retrouve Yann Lévy à Pantin, en banlieue parisienne, dans les locaux du magazine Fumigène. Quand j'arrive, il est en compagnie de Valentina Camus, Noman Cadoré et Julien Pitinome, tous trois photographes comme Yann, et co-auteurs avec lui d'un livre-album intitulé « État d'urgence » au pluriel. Ils sont là pour faire le point sur ce travail et pour me parler. J'explique au petit comité que je m'intéresse aux violences policières à l'encontre des journalistes. Yann recadre immédiatement notre conversation.
Ouais, déjà, moi, je parle pas de violence policière, je vais plutôt parler de violence d'État. Parce que la police n'est jamais que le bras armé de l'État, et à un moment, il y a une direction qui tombe et des gens qui l'exécutent. Donc, je fais bien cette distinction, puisque la violence d'État a un autre impact que la violence policière. La violence policière, on pourrait croire que c'est le fait isolé d'individus qui pourraient déraper. Et pour moi, cette notion-là, elle n'existe pas. C'est à un moment, il y a une volonté et il y a une couverture qui est générée par le ministère de l'Intérieur ou par le Premier ministre, peu importe, mais c'est bien une volonté politique. Parce que s'il y avait la volonté politique que ça n'ait pas lieu, il y aurait des sanctions et compagnie. Donc je parle avant tout de violence d'État avant de parler de violence policière. Pour moi, c'est parler de violence policière, c'est faire l'abstraction de toute une partie du problème.
Le problème, parlons-en.
Il y a les dégâts collatéraux, c'est-à-dire qu'on va se retrouver sur une charge de CRS et là, peu importe qu'on soit journaliste ou manifestant, on se prend la charge de la même façon. Du reste, c'est pour ça qu'on se couvre et qu'on se protège, donc avec des masques à gaz, avec des casques qui nous sont certaines fois confisqués, certaines fois pas confisqués, sur des décisions complètement arbitraires selon la personne sur qui on tombe, qui accepte la carte professionnelle, qui l'accepte pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que nombre de gens, de photographes n'ont pas de carte de presse pour des raisons économiques. Moi, j'ai souvenir d'une manifestation donc l'année dernière au mois d'avril où ça avait été extrêmement violent, place de la Nation au moment de la dissolution. On se fait encercler par des mecs de la BAC qui nous disent alors ça y est, la récréation est finie. Je fais excusez-moi monsieur, je comprends pas ce que vous me dites. Non, ça va, vous êtes bien amusé. Je comprends pas, on est là pour travailler, on s'amuse pas. Je fais non, vous travaillez pas, enfin si, vous travaillez à nous baiser la gueule. Voilà, donc déjà c'est pour arriver au deuxième point, c'est-à-dire que au-delà des violences donc qui peuvent être des dommages collatéraux, il y a aussi une volonté d'empêcher de produire des images, une volonté d'empêcher de témoigner de ce qui peut se passer en manifestation. J'ai appuyé cet argument avec une prise de tête que j'ai eue avec une officier donc sur je me fais fouiller par les CRS, ils essayent de prendre en photo ma carte professionnelle, je leur dis non, vous prenez pas en photo ma carte avec un téléphone privé, vous prenez sur votre calepin, vous notez, il n'y a pas de problème, vous relevez mon identité, mais vous ne prenez pas en photo, vous n'avez pas à me ficher comme ça. Donc ils prennent l'identité et puis ils vont pour confisquer, je dis non, vous confisquez pas ça, j'irai voir,
confisquer
mon casque, voilà. Et ils me disent, mais vous n'avez pas besoin de ça, je dis si, j'ai besoin de ça. Il me fait non, si vous étiez du bon côté, vous n'auriez pas besoin de ça. Je dis c'est quoi être du bon côté? Si vous étiez derrière nos lignes, vous n'auriez pas besoin de vous protéger. Et là, je vous dis, mais c'est pas à vous de me placer, et c'est pas à vous de me dire où est-ce que je dois me placer dans le cadre d'une manifestation. Je photographie qui je veux, d'où je veux, comme je veux.
Je me rends compte, en passant du temps avec Yann et ses collègues, qu'un fossé est en train de se creuser entre une partie jeune, extrêmement dynamique et déterminée de la presse, et l'appareil d'État représenté par les forces de l'ordre. Je fais cependant remarquer à mon interlocuteur que les violences contre les journalistes ont très majoritairement lieu lors de manifestations déjà violentes, où il y a des affrontements entre policiers et casseurs, entre guillemets, ce qui laisse supposer qu'il n'y a pas de volonté délibérée ou préméditée de s'en prendre à la presse.
En réalité, le niveau global de la violence de la société est monté de plusieurs crans. Il y a énormément de tensions. On a des forces de l'ordre qui aujourd'hui sont épuisées avec la notion d'état d'urgence, qui sont en sous-effectif, qui sont poussées à bout. Et puis aussi une légitimité, une facilité à passer à l'acte. Moi, l'intérêt que je vois sur les violences qui sont produites dans le cadre de la répression sur le mouvement de la loi travail, c'est juste qu'on a rendu visible à Paris intramuros ce qui se passait dans les quartiers populaires depuis des années. Voilà, c'est tout. C'est qu'on a un glissement des pratiques. Voilà, mais ces pratiques-là, elles existaient avant. Et c'est pour ça aussi que je parle pas de bavure, c'est pour ça que je parle bien de violence d'État. Voilà. Donc, qui de l'œuf ou de la poule? C'est pas mon problème. À un moment, il y a de la violence. Point. Et des violences sur les journalistes, indépendamment de phase d'émeute, parce que moi, je n'emploie pas non plus le terme casseur. Le terme casseur a une dimension nihiliste qui voudrait dépolitiser ce qui se passe. Moi, je parle d'émeutiers parce que derrière ça, il y a une revendication politique. Il suffit d'aller sur les sites, de voir la communication qui est faite par ces groupes-là pour prendre la mesure de ce qu'ils revendiquent. Il y a des manifestants qui sont des émeutiers. Voilà, posons-nous les questions plutôt en ces termes-là. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans un pays, la 8e puissance mondiale, on ait des émeutes de cette ampleur-là? Peu importe, encore une fois, d'où viennent ces violences, on a des photos qui sont remontées au SNJ, où on voit des palais de lacrymo qui explosent sur un pool de photographes. Nous-mêmes, dans nos pratiques, et c'est ce qu'on a mis dans la tribune qu'on a écrit, qu'on avait publié sur Mediapart, il y a des fois, on était obligé de partir en groupe pour se protéger, parce que, indépendamment des violences qu'il peut y avoir pendant la manifestation, il y a aussi tout ce qu'il peut y avoir autour de la manifestation. Et donc, à partir du moment où on partait tout seul, on s'exposait nous-mêmes à des risques. Des contrôles qui peuvent déraper ou un certain nombre de choses comme ça.
Alors que je m'apprête à quitter Yann et ses amis, la photographe Valentina Camus demande à prendre le micro.
Donc moi, je peux juste te raconter quelque chose que j'ai subi, c'est-à-dire que j'étais visée lors de la fin d'une manifestation. C'était à côté du Sénat, il y avait un groupe d'étudiants qui étaient partis en manif, en manifestation sauvage. Et c'était l'époque de, pendant la loi travail, donc c'était toute la mobilisation qu'il y a eu avec les étudiants. Et donc j'étais avec un groupe d'étudiants qui étaient partis du côté du Sénat et s'étaient éloignés. Donc il n'y avait pas énormément de monde, il devait y avoir une cinquantaine de personnes. Et à ce moment-là, je commence à faire des photos d'un étudiant qui était en train de se faire arrêter par un policier. Donc, il était main contre le mur et voilà, il arrêtait. Donc, je fais une première photo et le policier, il me dit, voilà, bouge, dégage, violemment. Et je me rapproche une deuxième fois pour refaire une photo. Et à ce moment-là, je tourne, il me dit à nouveau, dégage, voilà, bouge d'ici. Donc là, je lui tourne le dos et je m'éloigne. Et là, il me donne deux coups de matraque sur les jambes, très violemment. Et en fait, j'ai eu très mal à ce moment-là. Et là, moi, je me suis clairement senti visée. C'est-à-dire que j'étais reconnaissable. On n'était pas nombreux au niveau des journalistes, on était trois. Et donc je savais que c'était une situation qui était assez tendue parce que les moments où il y a moins de journalistes, je savais que ça pouvait être plus dangereux qu'à des moments où on est plus nombreux. Mais là vraiment je me suis sentie visée. Là c'est vraiment la fois où j'ai bien vu qu'il y avait la volonté de faire mal.
Je quitte les locaux du magazine Fumigène pour aller rendre visite à Reporters sans frontières. Je sais que l'organisation a réagi officiellement à plusieurs reprises contre des violences policières. Son classement en 2017 a permis à la France de gagner 6 places, passant de 45 à 39, mais la note globale du pays a baissé, ce qui veut dire que la situation s'est aggravée pour la liberté de la presse en France. Le texte qui détaille le cas français est d'ailleurs éloquent. Je cite « Une recrudescence de pratiques violentes des forces de l'ordre contre des reporters a été observée à l'occasion des manifestations contre la loi travail ou du démantèlement de la jungle de Calais. » Fin de citation. Paul Copin suit la situation française pour Reporters sans frontières.
Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on reçoit, on nous fait remonter énormément de cas d'exaction contre des journalistes, quel que soit le niveau de violence de l'exaction ou quelle que soit la nature de l'exaction. C'est difficile de dire s'il y a une tendance à l'aggravation, puisque je n'ai pas forcément l'expérience d'il y a 20 ans ou d'il y a 50 ans. Par contre, il semble y avoir une tendance à la banalisation de la violence policière de faible intensité, disons, et une banalisation de la violence qui vise délibérément les journalistes. nous, les informations qu'on reçoit, c'est pas la matraque qui a malencontreusement glissé sur la tête du journaliste. C'est les journalistes qui sont visés parce qu'ils ont le brassard presse, parce qu'ils ont la caméra. C'est des tirs de flashball tendus en plein visage vers le journaliste qui est parfaitement identifié comme tel. Et ça, c'est parfaitement inacceptable. Le droit de couvrir une manifestation, c'est le cœur de l'activité d'un journaliste. La manifestation, c'est par essence un sujet d'intérêt général qui concerne la collectivité, qui doit être couvert. C'est les différentes instances internationales ont rappelé que les journalistes avaient le devoir de couvrir les manifestations, ou le droit et le devoir de couvrir les manifestations, parce que c'est un sujet d'intérêt général, mais aussi parce que ça leur permet de documenter les violences policières contre les manifestants. Donc le fait que la police exerce des violences contre les journalistes, est-ce que c'est pour cacher les violences qu'ils exercent contre les manifestants par ailleurs ? Enfin, ça pose beaucoup de questions.
Quand je demande à Paul Copin s'il dispose de données, de chiffres permettant d'étayer ce sentiment de banalisation de la violence, il m'explique que son organisation Reporters sans frontières ne centralise pas les différents cas connus. Après vérification auprès d'autres sources, il semble clair que personne n'a encore fait le travail de recensement des cas de violence à l'encontre de journalistes lors de manifestations publiques en France. C'est une des tâches que nous allons nous assigner grâce au travail de Mathias Virilli, l'atelier des médias a recensé tous les événements connus où des journalistes ont été maltraités, malmenés durant les 5 dernières années en France. Pour en savoir plus, je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine.
Ah, laissez-moi faire mon travail. Arrêtez. Laissez-moi. C'est ça la France demain. Putain.